Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers pères et frères, chers séminaristes, chers fidèles, la Sainte Église nous fait célébrer aujourd'hui la fête de Saint Joseph, époux de la très sainte Vierge Marie et patron de l'Église universelle. Il ne faudrait pas moins d'un volume, écrivait le cardinal Pie, pour rapporter toutes les manifestations de la piété privée, tous les monuments de la confiance des familles, des villes, des royaumes, des corporations séculières et régulières, construction de temples, de chapelles, d'hôtels, création de monastères, de confréries, indulgences demandées et obtenues, établissement de fêtes secondaires, consécration d'un mois particulier à des exercices pieux en son honneur, que sais-je. Autant de preuves de ce sentiment de jour en jour plus vif qui porte les fidèles à reconnaître dans Saint Joseph une intercession très efficace par elle-même pour le bien et le progrès religieux des âmes, comme aussi une ressource particulièrement réservée à la société chrétienne et à l'Église en vue des crises extraordinaires et des complications temporelles qu'amèneront les temps à venir. Fin de citation du cardinal Pie. C'est le 8 décembre 1863 que le pape Pie IX, répondant à des suppliques et des prières venues de toute l'Église, proclama solennellement Saint Joseph patron de l'Église universelle. La situation de l'Église étant devenue plus critique depuis la chute des États pontificaux, le pape Léon XIII, qui exhortait déjà le peuple chrétien à se mobiliser par la prière du rosaire, se décida à recourir aussi à la puissante intercession de Saint Joseph. C'est l'encyclique Quamquam Pluries du 15 août 1889. Les temps où nous vivons, écrit-il, ne sont pas moins calamiteux pour la religion chrétienne que ceux qui, dans le passé, furent le plus remplis de calamités. Nous voyons s'éteindre la foi dans un grand nombre d'âmes, la charité se refroidir, la jeunesse grandir dans la dépravation des mœurs et des opinions, l'Église de Jésus-Christ attaquée de toutes parts. Dans une situation si difficile et si malheureuse, les remèdes humains sont insuffisants. Et le seul recours est de solliciter de la puissance divine la guérison. Afin que Dieu vienne plus promptement et plus largement au secours de son Église, nous jugeons donc très utile que le peuple chrétien s'habitue à invoquer avec une grande piété et une grande confiance, en même temps que la Vierge Mère de Dieu, son très chaste époux, le bienheureux Joseph. Fin de citation du pape Léon XIII. Mais le pape ne veut pas se contenter d'une simple exhortation, il veut convaincre nos intelligences. Et la suite de l'encyclique montre les raisons et les motifs spéciaux qui font que l'Église espère beaucoup de la protection et du patronage de Saint Joseph. Et le motif principal, c'est le lien unique par rapport aux autres saints qui unit Saint Joseph à notre Seigneur et à Notre-Dame. En tant qu'époux de la très sainte Vierge Marie, personne n'a approché de plus près la dignité de Mère de Dieu qui place Notre-Dame incomparablement au-dessus de toutes les créatures et même des anges. En donnant alors Joseph pour époux à la Vierge, dit le pape, Dieu lui donna non seulement un compagnon de sa vie, un témoin de sa virginité, un gardien de son honneur, mais encore, en vertu même du pacte conjugal, un participant de sa sublime dignité. Le second titre de Saint Joseph, qui lui confère une dignité exceptionnelle, c'est la mission qui fut la sienne d'être le gardien du Fils de Dieu. Et Saint Joseph, en effet, fut placé par la divine Providence pour tenir sur terre, auprès de Jésus, la place de Dieu le Père. Le Verbe de Dieu était humblement soumis à Joseph, dit le pape, il lui obéissait et il lui rendait tous les devoirs que les enfants sont obligés de rendre à leurs parents. En conséquence de cette double dignité, d'époux de la Très Sainte Vierge et de gardien du Fils de Dieu, Saint Joseph fut le gardien, l'administrateur, le défenseur de la Sainte Famille dont il était le chef. Il s'appliqua à protéger avec un souverain amour et une sollicitude quotidienne son épouse et le divin enfant, continue Léon XIII. Il gagna régulièrement par son travail ce qui était nécessaire à l'un et à l'autre pour la nourriture et le vêtement. Il préserva de la mort l'enfant menacé par la jalousie d'un roi en lui procurant un refuge. Dans les incommodités des voyages et les amertumes de l'exil, il fut constamment le compagnon, l'aide et le soutien de la Vierge et de Jésus. Mais la Sainte Famille, dont Saint Joseph était le chef, cette Sainte Famille était l'Église en germe. Notre Seigneur est la tête de l'Église dont nous sommes les membres, la Très Sainte Vierge en est la mère, elle est le cou du corps mystique. Et comme les dons de Dieu sont sans repentance, eh bien Saint Joseph, qui possédait une autorité paternelle sur la Sainte Famille, prémisse de l'Église, Saint Joseph garde cette autorité paternelle sur l'Église maintenant répandue dans le monde entier. Et de même qu'il subvenait autrefois à tous les besoins de la famille de Nazareth, qu'il l'entourait de sa protection, eh bien il couvre maintenant de son patronage et il défend l'Église de Jésus-Christ, qui est la maison du Seigneur et le royaume de Dieu sur terre, dit Léon XIII. Et c'est pour cela qu'en conclusion de son encyclique Divini Redemptoris, condamnant le communisme comme intrinsèquement pervers, le pape Pie XI proclamera Saint Joseph patron de la lutte contre le communisme. Le communisme épanoui aujourd'hui en mondialisme et qui est l'ultime invention des ennemis de l'Église pour la détruire et pour déchristianiser le monde. Eh bien, c'est Saint Joseph qui l'empêchera d'arriver à ses fins. Mais le pape poursuit son encyclique, pape Léon XIII, en montrant que Saint Joseph est en même temps un modèle pour tous les fidèles et pour toutes les conditions sociales. Les chefs de famille ont en lui l'exemple de toutes les vertus des époux et des pères. Les hommes consacrés ont en Saint Joseph le modèle et le protecteur de leur virginité. Les riches trouvent en lui l'exemple de la vie sainte et laborieuse, tandis que les pauvres et les personnes de condition modeste apprennent de lui à se contenter de leurs conditions. Et ces exemples sont très importants, ces exemples que Saint Joseph nous donne sont très importants à méditer, parce que Saint Joseph nous protégera d'autant plus que nous lui ressemblerons en imitant ses vertus. Alors il nous reconnaîtra comme les vrais membres de l'Église dont le soin lui a été confié. Le 13 octobre 1917, alors que la foule contemplait le miracle du soleil, les trois pastoureaux jouissaient d'un spectacle plus beau encore. Notre-Dame leur montra un triptyque des mystères du rosaire. Notre-Dame ayant disparu dans l'immensité du firmament, raconte sœur Lucie, nous avons vu à côté du soleil Saint Joseph avec l'enfant Jésus dans les bras, et Notre-Dame vêtue de blanc avec un manteau bleu. Saint Joseph et l'enfant Jésus semblaient bénir le monde en faisant le signe de la croix avec la main. Et puis apparurent, nous le savons, des scènes symbolisant les mystères douloureux et glorieux de notre rosaire. Alors cette apparition n'était-elle pas une confirmation de l'enseignement des papes qui, dans les temps actuels, plaçait Notre-Dame du Rosaire et Saint Joseph comme les ultimes secours du peuple chrétien. Alors que les circonstances spéciales dans lesquelles nous célébrons cette fête aujourd'hui nous soient une occasion providentielle de nous tourner davantage vers Saint Joseph et de le mettre en bonne place dans notre vie de prière, à côté du cœur immaculé de Marie, pour traverser les temps actuels sans perdre notre âme. Demandons cette grâce au cours de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.